Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primeau, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.
Chers amis, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview de la chronique Patrimoine et Finances. Dans ce nouvel épisode, j'ai souhaité vous parler d'un sujet très important, de la réforme de la facturation électronique pour le secteur de l'immobilier. À ce titre, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Bisson, chef de marché chez Société Générale, qui accompagne les clients sur la mise en œuvre de cette réforme, dont le top départ est prévu en septembre 26. Bonjour Vanessa.
Bonjour Frédéric.
Alors, on va pas le cacher à nos auditeurs. Nous nous côtoyons au sein du groupe Société Générale. Et si j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui, c'est parce que je sais que vous travaillez sur ce sujet et que vous pouvez nous aider à le rendre concret pour nos auditeurs. Alors, j'ai une première question. Vanessa Bisson, quand on parle de réforme de la facturation électronique, de quoi parle-t-on très concrètement ?
Eh bien, très concrètement, on parle d'une réforme qui change la manière de gérer et de transmettre certaines opérations de vente ou de prestation. Le dispositif entre en vigueur donc à partir du 1er septembre 2026. Et selon les cas, il faudra soit passer par un circuit de facture électronique, soit transmettre certaines données à l'administration fiscale. Pour cela, il faudra avoir recours à une plateforme agréée, mais ce n'est pas seulement un sujet de format de facture ou de logiciel. C'est une nouvelle façon d'organiser les échanges. Et puis, ce qui est important à comprendre pour nos auditeurs, c'est que cela ne concerne pas uniquement les relations entre entreprises. Selon la nature de l'activité et des flux, certaines opérations avec des particuliers peuvent aussi entrer dans le dispositif via la transmission de données qu'on appelle e-reporting. L'enjeu donc, ce n'est pas seulement de changer de format de facture ou d'outil, c'est de savoir quels flux sont concernés et comment s'y préparer.
Sujet très vaste. Dans l'immobilier, qui doit vraiment se sentir concerné aujourd'hui ? Les professionnels du secteur seulement ou aussi certains particuliers qui investissent via une SCI, une SRL de famille, en LMNP ou en nom propre ?
Alors là, il faut éviter les réponses automatiques. Dans l'immobilier, on ne peut pas dire les SCI sont concernés ou à contrario, les LMNP ne le sont pas, comme si tout le monde entrait dans la même case. La bonne question, c'est plutôt... quelle est l'activité exercée, dans quel cadre TVA, avec quel type de client et pour quel type de flux ? Donc oui, certains acteurs professionnels de l'immobilier sont clairement concernés. Mais certains profils qui se pensent non professionnels doivent aussi regarder le sujet de près. Et à l'inverse, certaines opérations immobilières peuvent relever d'un traitement différent, voire être hors champ de la réforme lorsqu'on est sur des opérations exonérées et dispensées de facturation. Donc, en résumé, dans l'immobilier, il n'y a pas de réponse unique. Il faut vraiment regarder la situation concrète.
Alors, il a pu m'arriver d'entendre deux phrases assez couramment. Je fais de la location, donc je suis concerné. J'en ai entendu une autre. Ou au contraire, je ne facture pas de TVA, donc je ne suis pas concerné. Est-ce que ce ne sont pas des raccourcis un peu trompeurs ?
Eh bien oui, parce qu'il simplifie à l'excès des situations qui, dans l'immobilier, peuvent être très différentes. Dire « je fais de la location, donc je suis forcément concerné », ce n'est pas toujours exact. Certaines opérations peuvent être exonérées de TVA et dispensées de facturation. Donc, il faut nuancer selon le cas. Et puis, à l'inverse, dire « je ne facture pas de TVA, donc je ne suis pas concerné », ce n'est pas exact non plus. On peut être assujetti à la TVA sans en être redevable, par exemple dans certains cas de franchise en base. Donc le bon réflexe, ce n'est pas d'appliquer une réponse uniforme à toutes les situations, mais de regarder le statut fiscal, le régime de TVA et la nature exacte de l'opération.
Bon, je suis un pragmatique, très concrètement. Loyer, charges, dépôt de garantie, refacturation de travaux ou de charges, est-ce que tous ces flux donnent forcément lieu à une facture électronique ou à une facturation électronique ?
Non, justement. Et c'est probablement le point le plus important pour une audience immobilière. Tous les flux ne se traitent pas de la même manière. Un loyer, des charges, un dépôt de garantie, une refacturation de travaux ou de charges, derrière tous ces mots du quotidien, on peut avoir des traitements différents selon la nature juridique et fiscale du flux. Par exemple, un dépôt de garantie ne se traite pas automatiquement comme une facture classique. Une refacturation de travaux ou de certaines charges peut appeler, elle, une autre analyse. Et enfin, pour les loyers, il faut regarder le type de location, le régime applicable et le fait que l'opération soit ou non soumise à TVA. Donc, il ne faut surtout pas mettre tous les encaissements immobiliers dans la même catégorie. Le vrai travail, c'est de distinguer ce qui relève d'une facture, ce qui relève d'un autre justificatif et enfin ce qui peut être même hors champ de la réforme. Donc pour certains flux, il faut vraiment vérifier au cas par cas.
Vanessa Bisson, aidez-nous. Si on est une SCI, un LMNP ou un investisseur en nom propre, quelle est la bonne méthode pour savoir ce que l'on doit réellement faire sans se tromper ?
Alors, je recommande une méthode très simple en trois questions. Première question, est-ce que mon activité me place dans le champ de la TVA en tant qu'assujetti, y compris si je ne facture pas nécessairement de la TVA ? Puis deuxième question, à qui je facture ? À un particulier, à une entreprise, à une administration publique ou à une autre structure ? Ça va aussi être déterminant. Et puis enfin, troisième question, quel est le flux exact ? Un loyer, une prestation, une refacturation, une avance, un dépôt de garantie ? Quand on a répondu à ces trois questions, on clarifie déjà beaucoup de choses. Et puis, si le cas est encore plus spécifique, le plus simple, c'est de le vérifier avec son expert comptable, son conseil habituel, ou aussi via les ressources d'information qui sont mises à disposition par l'administration fiscale. Il existe d'ailleurs une rubrique dédiée sur impots.gouv.fr, qui est une mine d'or d'informations pédagogiques, et aussi un numéro national d'assistance, qui est là pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur la facturation électronique.
Vous avez le numéro peut-être ?
Eh bien évidemment, donc il est gratuit, c'est l'avantage, et ce numéro c'est le 0806 807 807, qui est ouvert vraiment à toutes les entreprises et aux particuliers.
Merci. Au-delà de la règle, qu'est-ce qu'il faut anticiper dès maintenant sur le plan pratique ? Nous sommes en juin 26.
Alors, vous l'avez dit, Frédéric, le mot-clé, c'est vraiment l'anticipation. Ne pas paniquer, mais anticiper. On est à 3 mois de la réforme et à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques. Donc, même quand on pense être peu concerné en émission, il faut déjà se préparer côté réception. Alors concrètement, il y a 3 choses à faire. D'abord, cartographier ses flux. Qu'est-ce que j'encaisse ? Qu'est-ce que je facture ? À qui ? Et dans quel format aujourd'hui ? Et puis ensuite, il faut vérifier que les outils suivent. Le logiciel métier, la comptabilité, et puis la manière dont tout ça fonctionne au quotidien. Et enfin, évidemment, il faut préparer le choix d'une solution adaptée. Il va falloir choisir une plateforme agréée en regardant si elle est simple à utiliser, compatible avec l'existant et puis accompagnée de manière sérieuse. Le vrai piège, c'est d'attendre le dernier moment en pensant que ce sujet ne concerne que les grandes entreprises. En réalité, le sujet de la réception des factures électroniques, ça concerne tout le monde.
Oui, puis le démarrage, c'est très bientôt, nous sommes au début de l'été. Dernière question, Vanessa Bisson. Beaucoup d'auditeurs s'interrogent sur 2 points très concrets, le choix d'une plateforme et la sécurité des données. C'est un sujet stratégique. Quel réflexe faut-il avoir, selon vous ?
Alors, je pense qu'il faut garder 2 réflexes très simples. Le premier, c'est de choisir un cadre fiable, évidemment. L'État a publié la liste des plateformes agréées, la liste des plateformes que l'État a lui-même immatriculées dans le cadre de la réforme. Donc il faut évidemment partir de là, ou d'une solution qui soit compatible avec ces plateformes. Et puis le deuxième réflexe à avoir, c'est de ne pas choisir sa plateforme uniquement sur un argument commercial ou sur le prix. Il faut impérativement regarder la sécurité, la traçabilité, l'interopérabilité aussi avec vos outils, et puis la capacité à gérer les cas concrets et la qualité de l'accompagnement qui sera très important au moins au démarrage de la réforme. Et sur la deuxième partie de la question, sur les données, eh bien là le bon sens doit primer. On parle de factures, donc de données sensibles pour l'activité. Donc il faut savoir où elles transitent, qui y accède, comment elles sont archivées, et puis comment la solution qui va être choisie va s'intégrer à l'organisation existante. L'objectif, ce n'est pas de choisir la plateforme la plus visible. L'objectif, c'est de choisir une solution fiable, simple à utiliser et surtout adaptée à ses besoins.
Vanessa Bisson, je vous remercie. J'espère vous avoir éclairé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Patrimoine et Finances. Je vous remercie de votre fidélité et je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et réécouter nos différentes émissions en podcast. À très vite, prenez soin de vous.
Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.